Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais. Bonsoir Marion.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans votre RTL Soir. Et c'est un ministre bousculé qui sera avec nous ce soir. Vacances à Ibiza, contestation enseignante et contamination au Covid toujours en hausse chez les élèves et les profs. Le ministre de l'Éducation nationale dans le studio d'RTL à partir de 18h15. On reviendra notamment avec Jean-Michel Blanquer sur ce bac 2022 déjà perturbé, épreuve de spécialité reportée de 2 mois, de mi-mars à mi-mai. Les autres titres de l'actualité maintenant dans votre journal, Agnès Bonfillon, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous. L'éventuel ralliement de Marion Maréchal Le Pen à Éric Zemmour donne des ailes au soutien du candidat. Lui, officiellement, ne s'emballe pas. Vladimir Poutine assure qu'il ne cherche pas la confrontation avec l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président russe par téléphone aujourd'hui. Tiens, tiens, comme on se retrouve, nos handballeurs vont tenter de décrocher leur ticket pour la finale de l'Euro. Ce soir, ce sera face aux Suédois, exactement comme l'année dernière au Mondial. L'arrivée des courses, elle se déroulait à Pau. Il fallait jouer le 9, le 5, le 10, le 11 et le 4.
À 18h40, on va refaire nos régions avec aujourd'hui une prof de maths qui est aussi la copilote de Sébastien Loeb en rallye. Au menu également, le combat des bancs publics. À 7, on va savourer des bugnes dans le Rhône et s'évader en Éthiopie avec notre expatrié de la semaine. 19h15, on refait la France avec vos correspondants étrangers installés dans l'Hexagone. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
Au programme.
Alors on va parler croissance, chômage, de Michel Sardou aussi, de son coup de gueule cette semaine sur RTL. Vous verrez, ça fait réagir. Et puis les EHPAD, bien sûr, on se demandera si la France est la seule à maltraiter ses aînés.
Et puis des points tout au long de l'émission sur le temps avec vous, Valérie Quintin, bonsoir.
Bonsoir.
La tendance?
Eh bien une tendance toujours la même en fait, je ne fais que me répéter depuis une dizaine de jours. Du soleil au sud, de la grisaille au nord. En nouveauté pour le nord, une petite dégradation qui va donner quelques pluies demain matin, principalement sur le nord-est. On pourra avoir d'ailleurs localement des pluies verglaçantes dans le Morvan ou encore dans les Vosges.
A tout de suite pour le point météo complet.
RTL Soir.
Le journal Marion Calais.
Agnès Bonfillon.
Et encore davantage de classes fermées à cause du Covid. 21 000 contre 18 000 la semaine dernière, tout niveau confondu.
Plus d'enseignants testés positifs, plus d'élèves aussi. La désorganisation est telle que dans le secondaire que Jean-Michel Blanquer reporte les épreuves de spécialité du bac. Elles devaient avoir lieu en mars. Elles sont repoussées au mois de mai, Marie Garrier.
Oui, elles auront lieu les mercredis 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai. Les deux jours précédents, lundi 9 et mardi 10 mai, seront consacrés aux révisions, donc uniquement des cours sur les spécialités pour les élèves de terminale. Le programme sur lequel porteront les épreuves de mai, eh bien ce sera le même que celui fixé initialement pour les épreuves de mars. Les élèves n'auront pas à réviser de chapitres supplémentaires et puis ils auront un plus grand choix de sujets. Conséquence de ce report, les notes des épreuves de spécialité ne pourront pas figurer dans les dossiers des élèves sur Parcoursup, dossiers qui doivent être bouclés le 7 avril. À la place, ce sont les moyennes trimestrielles de spécialité obtenues en première et sur les deux premiers trimestres de terminale qui seront transmises pour l'orientation dans l'enseignement supérieur.
Le report de ces épreuves, c'est exactement ce que souhaitaient les syndicats. Sophie Vénétité, secrétaire du syndicat SNES-FSU, s'en félicite.
Aujourd'hui, c'est le soulagement qui prédomine, le soulagement d'avoir obtenu du temps supplémentaire pour les élèves et les professeurs afin de préparer sereinement ces épreuves. C'est aussi à mettre au crédit de toute la mobilisation de ces derniers jours, puisqu'on a quand même beaucoup mis en avant l'impossibilité de préparer des épreuves pour le mois de mars en l'état actuel des choses. Enfin, on a été entendu par le ministre. Enfin, des considérations pédagogiques ont été prises en compte. Il y a eu de la concertation et puis nous avons été prévenus en premier, comme quoi il n'est jamais trop tard, même en fin de quinquennat, pour changer de méthode.
Des discussions et de la satisfaction. On y reviendra évidemment avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à 18h15.
Non seulement Marion Maréchal Le Pen ne s'est pas réconciliée avec sa tante, mais elle envisage sérieusement de passer à l'ennemi, de rejoindre Éric Zemmour. C'est ce qu'elle déclare dans les colonnes du Parisien aujourd'hui, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Marine Le Pen sur CNews.
Je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. J'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
Cet éventuel ralliement de Marion Maréchal Le Pen galvanise déjà l'équipe d'Éric Zemmour, même si le candidat en déplacement dans le Loir-et-Cher fait mine de ne pas trop s'emballer, Thomas Desprez.
Oui, à peine sorti de voiture, Éric Zemmour ne cachait pas sa satisfaction.
C'est une belle semaine. Des gens nous rejoignent de tous côtés, des politiques bien sûr, et je les accueille toujours avec les bras ouverts. Maintenant, m'interrogez sur Marion Maréchal. Je vous répondrai ce que vous aurait dit ma grand-mère. Qui vivra, verra.
Autour de lui, Philippe de Villiers, Guillaume Pelletier, ses deux plus gros soutiens. Mais la grosse prise, ce serait bien sûr Marion Maréchal, mais il ne faudrait pas lui mettre la pression, tempère l'entourage d'Éric Zemmour. Alors ici, on tente de ne pas trop en parler, mais en coulisses, ce ralliement semble déjà presque acquis. Ces derniers jours, Marion Maréchal a échangé avec plusieurs proches ralliés à Éric Zemmour, l'eurodéputé ex-RN Gilbert Collard ou encore Jean-Frédéric Poisson. Sa décision est prise, croit savoir un intime, reste à savoir quand l'annoncer. Autour d'Éric Zemmour, on fait mine de ne pas savoir, mais le plus tard sera le mieux pour certains, comme une carte maîtresse à dégainer dans les dernières semaines. Quoi qu'il en soit, Marion Maréchal a déjà annoncé qu'elle rendrait sa décision d'ici un mois.
Thomas Desprez du service politique de RTL. La mère de l'enfant retrouvé mort hier en Seine-et-Marne est toujours en garde à vue ce soir. Elle a été interpellée ce matin à Choisy-le-Roi après s'être réfugiée chez des proches, Vincent Serrano.
Oui, dans un petit appartement d'une tour de 8 étages en plein centre-ville de Choisy-le-Roi. Interpellation sans résistance, sans bruit même, puisqu'aucun voisin ou commerçant n'a entendu ou vu la présence des policiers aux alentours de 10h30. Et pendant un moment, puisqu'ils ont procédé à des prélèvements dans l'appartement, essayé de trouver potentiellement du sang ou des objets. Alors, les proches et cette femme de 33 ans ont été emmenés à Versailles, dans les locaux de la SRPJ. Les premiers entendus en qualité de témoins et la mère de l'enfant placée en garde à vue pour les faits d'homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans. Elle est toujours entendue par les enquêteurs qui la suspectent d'avoir poignardé son garçon de 10 ans avant de mettre son corps dans une valise et de l'acheter dans une benne, puisque les résultats de l'autopsie réalisée sur l'enfant confirment la présence de plusieurs plaies par arme blanche, surtout au niveau du cou et de l'abdomen.
Les précisions de Vincent Serrano pour RTL.
Le préfet de police de Paris jette l'éponge. Les consommateurs de crack, finalement, ne seront pas déplacés.
La mairie était fermement opposée à un nouveau transfert des toxicomanes, actuellement porte de la Villette, vers un site du 12e arrondissement de la capitale. Natacha, Noé, Nathan et Sarah, 9 jours après la mort de ces 4 jeunes dans le Jura, dans un accident de la route, leur lycée de Champagnole a organisé un hommage cet après-midi, Bertrand Frachon.
Des barrières ont été installées pour filtrer l'accès au lycée contrôlé par des gendarmes. Seuls les proches des victimes et les élèves sont autorisés à entrer. Des élèves encore sous le choc après cet hommage, comme l'explique Maël en terminale.
C'était assez émouvant. Les gens ont fait des discours, il y a eu des images, des photos. Beaucoup de monde a été réuni aujourd'hui. Le proviseur a fait un discours. Puis après, il y a plusieurs élèves qui ont pris la parole, qui ont lu des discours devant tout le monde. Et puis après, on allait mettre soit une pétale, soit un caillou dans un bac d'or.
L'unique rescapé du drame, Nicolas, 17 ans, était présent aujourd'hui, comme l'explique Madi Tamen, inspecteur d'Académie du Jura.
On doit vraiment lui rendre hommage parce qu'il a été excessivement courageux de soutenir ses camarades pour les 4 obsèques en 3 jours. C'est énorme pour un adolescent et il a repris les cours depuis hier et on va être à ses côtés pour le soutenir.
Contacté par téléphone, le procureur de Lons-le-Saunier affirme ne pas avoir d'éléments nouveaux dans l'enquête. Il attend prochainement le résultat des autopsies et pourrait communiquer la semaine prochaine.
Le reportage de Bertrand Frachon dans le Jura pour RTL.
Une pause et dans un instant, votre journal se poursuit dans RTL Soir. On ira en Ukraine retrouver l'envoyé spécial d'RTL où la population ukrainienne apporte son soutien aux soldats. Tout de suite.
RTL Soir
avec Marion Calais.
RTL Soir
avec Marion Calais.
Et à 18h10, c'est la suite du journal d'Agnès Bonfillon. Et comme prévu, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine cet après-midi.
Le président français et son homologue russe sont convenus de la nécessité d'une désescalade concernant la crise ukrainienne. Ils se félicitent de la poursuite du dialogue. Mais pendant ce temps, les Ukrainiens, eux, veulent que leurs soldats ne manquent de rien, quoi qu'il arrive. Julien Fautra, vous êtes notre envoyé spécial à Kiev. Vous êtes rendu dans un petit local à l'écart de la ville. C'est là que les colis sont préparés pour être envoyés sur le front.
L'adresse du local est tenue secrète. Une entrée désaffectée avec des fils qui pendent du plafond. Le long couloir est mal éclairé. Un chien massif à l'entrée. Valentina met de l'ordre dans les dons.
On est débordés. Il faut aider les militaires qui nous défendent.
D'un côté, de la nourriture, de l'autre, des médicaments au nom de la patrie.
Regardez sur cette étagère, ce ne sont que des médicaments de base. Les gens en apportent, on les rassemble, on les envoie à la frontière. On est un pays en guerre. On a même cette semaine été sollicité par l'ambassade d'un pays inquiet de la situation. Je ne peux pas vous dire lequel, mais un pays étranger qui est prêt à apporter de l'aide humanitaire pour nos soldats.
Valentina garde ce gros chien noir prêt aux hivers ukrainiens les plus rudes. Ce chien à l'abandon, ses maîtres successifs ont été abattus par l'armée russe.
Ce chien, c'est la mascotte de l'armée. Il m'accompagne chaque fois que je vais dans le Donbass.
Les autres volontaires ne veulent pas être vus, de peur d'être reconnus, persuadés que des agents des services secrets russes surveillent toute la ville.
Le reportage de Julien Fautra et Jonathan Griveau, nos envoyés spéciaux en Ukraine. Comme un air de déjà-vu, les handballeurs français et suédois s'affrontent ce soir pour décrocher une place en finale de l'Euro, coup d'envoi à 20h30, exactement comme l'année dernière, au Mondial. En espérant cette fois un autre dénouement, Isabelle Langer.
Ah oui, les Bleus veulent gagner ce soir. Et contrairement à leurs trois derniers matchs, ils vont de nouveau être dirigés par Guillaume Gilles au bord du terrain. Testé positif il y a une semaine, le sélectionneur peut en effet enfin sortir de sa chambre où il était à l'isolement. Et ce soir, le boss des champions olympiques ne s'attend pas à une partie de plaisir contre les Suédois.
On est face à un adversaire de grande valeur qui lui aussi a eu ses problèmes, un peu touché dans son effectif avec des gens out pour Covid. Mais c'est une très belle demi-finale avec une équipe de Suède qui joue un très bon handball, qui est très solide. Donc on a une belle armada en face de nous, mais on sait que dans un dernier carré, tout est ouvert, tout est possible. On a envie de continuer à grandir, on a envie de franchir cette nouvelle étape et de se qualifier pour la finale.
Une finale que les Bleus n'ont plus atteint à l'Euro depuis leur dernier titre continental, c'était en 2014.
Merci Isabelle Langer. Nadal, Medvedev, voilà donc l'affiche de la finale de l'Open d'Australie. Le Russe a éliminé Tsitsipas au terme d'un match spectaculaire, mais aussi très tendu.
Pour le moins.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
C'est notre économie, la bonne nouvelle. En très net rebond, l'INSEE évalue la croissance 2021 à près de 7% en 2021, donc après forcément la période morose due à la crise sanitaire. C'est du jamais vu depuis 50 ans. Alors concrètement, ça se traduit par des postes à pourvoir dans le quartier de Saint-Lazare, par exemple, chez Mongopé, une start-up spécialisée dans le paiement en ligne. Ça embauche beaucoup plus que d'habitude, Benjamin Boucriche.
Oui, ici, croissance veut dire embauche. L'entreprise a recruté 100 personnes l'an dernier. Sa taille a presque doublé. Mangopay, elle fabrique une solution de paiement en ligne que l'on utilise sur des sites internet que vous connaissez peut-être, Le Bon Coin, Vinted ou La Redoute. Donc, comme on achète de plus en plus en ligne, on utilise Mangopay plus souvent, d'où le besoin de recruter. Elodie Mériguet, la directrice des ressources humaines.
À la fois pour aller de l'avant sur le marché ou pour investir sur nos nouveaux produits et sur l'avenir. Voilà, on avait besoin de toutes ces équipes qui travaillent aujourd'hui avec nous.
Avec une croissance de quasiment 60% en 2021. Les augmentations de salaire sont logiquement plus importantes qu'ailleurs. Une politique assumée par le patron Romain Mazariès.
Il y a des gens qui vont avoir entre 3 et d'autres qui peuvent avoir jusqu'à 15, 20, 25% d'augmentation de salaire en fonction de la manière dont ils ont réalisé leur mission sur l'année passée.
Et l'entreprise prévoit maintenant de recruter 80 nouvelles personnes pour l'année à venir.
Merci beaucoup Benjamin Boucriche.
Des emplois et des salaires qui augmentent, ça aussi ça fait plaisir. À tout à l'heure Agnès Bonfillon, on va refaire nos régions ensemble. D'abord le temps avec vous Valérie Quintin, c'est toujours la même chose, hein, du soleil au sud
Je vais commencer par
gris.
Là. Je vais commencer par le soleil, soyons un petit peu optimistes. On va trouver du soleil demain, pratiquement toute la journée, encore une fois, des Alpes à la Méditerranée, mais également dans le sud du Massif central, dans le sud-ouest, même si les brouillards traîneront un petit peu en matinée en Midi-Toulousain. Pour la moitié nord, on va garder notre grisaille avec en prime une petite dégradation pluvieuse qui va arriver par le nord dès le matin d'ailleurs.
Sympa, cadeau.
Ça va donner quelques pluies, surtout dans le nord-est et même quelques pluies verglaçantes dans le Morvan ou encore dans les Vosges. Reste que les températures qui seront encore très basses demain matin vont grimper un petit peu en journée. 6 degrés attendus à Nevers, 9 à Grenoble et Bordeaux, 10 à Reims, 11 à Paris et Saint-Malo, 15 degrés pour Ajaccio et 16 degrés à Aubagne.
Merci Valérie Quintin, à tout à l'heure. RTL Soir se poursuit avec notre invité exceptionnel dans un instant. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est avec nous en studio. À tout de suite.
RTL Soir
avec Marion Calais. Marion Calais,
l'invité d'RTL Soir.
L'invité d'RTL Soir, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir Jean-Michel Blanquer.
Bonsoir.
Toujours plus de classes fermées, toujours plus de profs absents. Une contestation dans les rangs de l'Éducation nationale qui s'est encore exprimée hier. Un protocole de test dont certains parents n'hésitent plus désormais à s'affranchir. On va évoquer avec vous ce soir tous ces sujets. D'abord, ce sujet sur lequel vous avez tranché aujourd'hui, celui des épreuves de spécialité pour le bac. Elle devait se tenir du 14 au 16 mars. Ce sera finalement mi-mai. Après plusieurs journées de mobilisation, ce report, c'est pour faire plaisir aux syndicats ?
Bon, d'abord, je ne suis pas très d'accord avec votre façon d'introduire l'ensemble du sujet. On a une impression de noirceur en vous écoutant et je pense qu'il ne faut pas abuser. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a plus de 95% des classes qui sont ouvertes. Il faut rappeler qu'on est dans une situation hors du commun. En second lieu, il faut rappeler que le dialogue social continue, il est fort, il aboutit d'ailleurs au résultat dont vous venez de parler sur le report du bac. La grève d'hier a été suivie à 8%, donc je pense qu'il faut rester serein sur l'ensemble de ces enjeux et ne pas faire de description excessive. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir qu'on est quand même probablement pas très loin du bout du tunnel en matière sanitaire. C'est ce qui nous permettra, je l'espère, d'alléger les mesures après les vacances de février. Et en attendant, le protocole de trois tests est quand même ce qui nous permet aujourd'hui d'assurer l'école pour l'immense majorité des enfants tous les jours. Ce qui reste, je le rappelle, une performance à l'échelle du monde, ne l'oublions pas. Donc ne sous-estimons pas ce que le système scolaire réussit à faire depuis 2 ans en ces matières.
D'abord sur le report des épreuves, c'est un geste malgré tout d'apaisement pour les syndicats et le corps enseignant ?
Que ce le soit, c'est fort possible et tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était de créer des conditions de sérénité pour la préparation du baccalauréat. Comme vous le savez, dans la nouvelle formule du baccalauréat, chaque élève doit normalement passer, lorsqu'on est en baccalauréat général ou technologique, ce que l'on appelle les épreuves de spécialité au mois de mars. Et cette possibilité semblait discutable là, puisque certains élèves n'ont pas été dans les mêmes conditions d'apprentissage que les autres depuis plusieurs semaines. Et donc nous avons eu un débat pour savoir s'il fallait les reporter éventuellement, et si oui, en mai ou en juin. J'ai beaucoup écouté depuis de nombreux jours maintenant, aussi bien les lycéens que les parents d'élèves que les professeurs. Et nous sommes arrivés à cette formule qui, je crois, est la meilleure possible, c'est-à-dire un report au 11, 12 et 13 mai, qui nous permet de garantir une plus grande période de révision pour les élèves, mais aussi de garantir la valeur du diplôme, parce que l'objectif, c'est évidemment la qualité de ce que feront les élèves.
Oui, mais reste que dans Parcoursup, c'est le contrôle continu sur ces spécialités qui va compter. Votre réforme, elle n'est pas aboutie aujourd'hui ?
La réforme est composée de bien des aspects. Par exemple, les enseignements de spécialité dont nous parlons, vous le savez, ils ont remplacé les anciennes séries. Et ce point-là est un point majeur. C'est comme ça que nos élèves aujourd'hui, et ils le savent bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très majoritairement favorables à cette réforme. Ils ont beaucoup plus de liberté pour choisir. Comme ils ont plus de liberté pour choisir, on considère qu'ils doivent approfondir davantage. Et donc on a relevé le niveau, aussi bien des programmes que des exigences. Et en plus, cela leur permet d'avoir une diversité de parcours. Donc ces points-là sont acquis. De même, vous avez de nouvelles disciplines. Par exemple, l'informatique est désormais une discipline en tant que telle. Vous avez le grand oral. Donc il y a de nombreux aspects de la réforme. L'un des aspects, c'est en effet la prise en compte de ces points forts de l'élève, de ces deux points forts de l'élève dans Parcoursup. Eh bien, cette année, ce sera sous la forme des notes que cet élève a obtenues en première et en terminale dans ces deux domaines. Et tous les élèves qui se sont préparés pour mars, par définition, ont des notes de contrôle continu correspondant à ce degré de préparation.
Je voulais qu'on évoque justement ces épreuves de spécialité parce que des associations, des sociétés savantes en maths se sont exprimées cette semaine pour dénoncer un choix moins important de la spécialité de maths. Benoît d'ailleurs, qui est prof de maths dans un lycée général de Lille, nous a appelé au 3210.
Quand on avait 8 classes qui faisaient classe générale avec des mathématiques, on ne se retrouve qu'avec 5 groupes. Comment on peut dire dans un courriel qu'on a reçu cette semaine de l'inspection générale et du numéro 2 du ministère, qu'on fait plus de maths et mieux de maths. Les filles sont moins nombreuses que d'habitude à apprendre les mathématiques. Elles désertent un peu les filières très spécifiques du style les spécialités maths expertes. On est revenu à des chiffres de 1994 avec cette nouvelle réforme.
Vous assumez que cette réforme du bac aggrave les inégalités filles-garçons dans les spécialités scientifiques ?
Non, pas du tout. C'est vraiment tout le contraire. Mais vous savez, sur ce sujet comme sur d'autres, au moment où on fait un rebond après des années de déclin, c'est le moment où il y a les attaques les plus fortes vis-à-vis de ce qui est fait. C'est assez, c'est ainsi, c'est notre débat public tel qu'il est fait. Mais c'était évidemment tout le contraire qui était en train de se passer. D'abord, nous avons une stratégie mathématique pour la France depuis 4 ans, à la suite du rapport dit Villani-Torossian, que j'applique scrupuleusement. Ce rapport nous permet d'avoir une formation des professeurs des écoles beaucoup plus forte en mathématiques.
Mais sur l'engagement des filles dans ces spécialités-là.
Alors, s'agissant de l'engagement des filles, il y a plus de filles en mathématiques cette année. Donc, certains ont sorti des chiffres complètement partiels pour affirmer cela. Vous aviez 49 000 élèves qui étaient en terminale S auparavant, dans le précédent système. Vous en avez 52 000 aujourd'hui. Donc, ça augmenté, alors pas en S bien sûr puisque ça n'existe plus, mais dans ce qu'on appelle l'enseignement de spécialité maths auquel on ajoute maths experte. Auparavant ils faisaient 8 heures en terminale S, maintenant ils font 9 heures et le pourcentage de filles n'a pas baissé et d'ailleurs il est à peu près de 50% s'agissant de ces filières. Donc si vous voulez, je suis très surpris de voir ça puisque on a aujourd'hui donc 17 000 filles qui sont en spécialité de maths plus maths experte. Elles étaient 15 000 en terminale S, donc Voyez la différence. Il y a plus de filles et en plus, ils font plus d'heures de mathématiques. Donc, parmi les choses qui sont en train de progresser, il y a celle-là. Un certain nombre de chiffres sont sortis dans un quotidien. Je récuse complètement ce qui a été dit sur le sujet. Il y a au contraire une stratégie mathématique, un programme de lycée qui est d'ailleurs devenu plus exigeant. Et donc, que ce soit sur la formation générale en mathématiques à l'école primaire ou que ce soit sur l'approfondissement des mathématiques par nos élèves qui se destinent à une carrière scientifique, nous sommes en train de progresser. Et le point parmi les plus importants, c'est qu'aujourd'hui, les élèves qui ont fait des mathématiques et des matières scientifiques sont plus nombreux à s'être inscrits dans des filières scientifiques de l'enseignement supérieur. Autrement dit, autrefois, vous faisiez la terminale S, mais après, vous faisiez des études assez souvent autres que scientifiques. Désormais, il y a une plus grande cohérence du parcours et ça vaut pour les filles comme pour les garçons.
Alors, sur les contaminations, vous avez commencé en disant que la situation tendait à s'améliorer. Or, les chiffres des classes fermées, ils augmentent. 21 000 contre 18 000. Le nombre d'élèves contaminés, il augmente également. 570 000 contre 463 000 auparavant.
Non, on est sur un plateau haussier. Je n'ai pas dit qu'elle était en train de s'améliorer. J'ai dit qu'il y avait une perspective d'amélioration à l'horizon des vacances de février. Actuellement, on est clairement sur un plateau. Fort heureusement, on sait très bien que dans l'immense majorité des cas, les symptômes ne sont pas très graves. Et donc,
mais les taux d'incidence persistent. Le nombre d'hospitalisations d'enfants est également très élevé. 640 enfants hospitalisés de 0 à 9 ans. Ça, ce sont des risques que vous êtes prêts à prendre ?
Il y a, vous savez, les hospitalisations pour bronchiolite, par exemple, même pour gastro-entérite, sont plus importantes. Je suis évidemment très attentif à ce qui se passe en pédiatrie. Ça a même été un de mes critères principaux de décision depuis le début. Mon raisonnement est un raisonnement en santé publique globale, c'est-à-dire il n'y a pas que le Covid, il y a l'ensemble des risques qui existent pour l'enfant, y compris les risques psychologiques à ne pas aller à l'école. Vous savez, il suffit de faire un tout petit peu de comparaison européenne pour voir à quel point la situation française est vraiment la meilleure possible, les choses étant ce qu'elles sont.
Avec une vaccination qui est beaucoup plus faible chez nous, chez nos voisins.
Je suis toujours surpris par la tonalité de ce genre d'interrogation, parce que c'est, si vous voulez, regarder ce qui se passe à l'étranger, regarder ce que nous avons fait aujourd'hui. Les autres pays regardent ce que la France a fait depuis 2 ans. L'UNESCO a sorti un rapport au début de la semaine, où on voit que la France est dans les 10% de pays qui ont fermé le moins l'école. Et ce même rapport estime totalement catastrophique ce qui s'est passé justement dans la grande majorité des pays en privant les enfants d'école. Mais dans le débat interne public français, il faut d'abord critiquer avant de voir la force de ce qui s'est passé, non pas de la part de votre serviteur, mais de la part de l'ensemble du pays, et à commencer par les professeurs, par les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, et le système scolaire français qui tient dans la crise. Nous sommes, au moment où je vous parle, dans un moment hors du commun. Encore une fois, ce variant est véritablement catastrophique par sa contagiosité. Bien, nous réussissons à traverser, vaille que vaille, avec des difficultés, avec des adaptations constantes, qui posent toute une série de problèmes, je suis le premier à le dire, mais qui nous permettent quand même d'avancer.
Vous restez avec nous, Jean-Michel Blanquer, dans un instant où en est le remplacement des profs contaminés par le Covid. On parlera politique aussi. L'affaire Ibiza risque-t-elle de plomber votre place dans la campagne à venir ? A tout de suite.
RTL Soir, avec Marion Calais.
Marion Calais,
l'invité d'RTL Soir.
Et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, est l'invité d'RTL Soir. Et avec l'épidémie de Covid, une question sur l'absentéisme chez les enseignants et les profs. 35 500 cas sur les 7 derniers jours, contre environ 31 000 la semaine dernière. Et à la clé, dans les écoles, un vrai casse-tête, comme l'a confié au 3210 Laurence. Elle est directrice d'une école élémentaire dans l'Eure.
J'ai encore une collègue qui est positive depuis hier. Sa classe est fermée, pas de remplaçant. Sauf que les parents qui sont professionnels de santé viennent tout de suite vous voir pour dire « moi je veux que mon enfant soit accueilli ». Et là par contre on a le droit de brasser. Pour ce coup-là, ces enfants-là, on peut les mettre dans d'autres classes. Donc vous voyez, c'est d'un cynisme et on est en colère parce qu'on se dit on est juste là pour faire de la garderie.
Jean-Michel Blanquer, quel est le taux de remplacement des enseignants absents aujourd'hui?
Notre vivier de remplacement est justement autour de 10%. Ça dépend des académies. Là, on entend dans l'académie de Normandie, je crois que c'est légèrement en dessous de 10%. Dans d'autres académies, c'est un peu au-dessus, 11%, 12%. Et vous l'avez dit vous-même, le taux d'absence est à peu près de 10%. Donc il n'y a pas toujours une parfaite adéquation entre nos moyens de remplacement, même si nous avons beaucoup recruté ces derniers temps.
Contractuels, les retraités que vous aviez appelés, ils sont présents, ils sont venus ?
Oui, on fait du recrutement académie par académie. On a ouvert plus de 3000 postes dans ce cadre-là. On a aussi ouvert ce qu'on appelle les listes complémentaires, autrement dit ceux qui étaient en liste d'attente sur les concours, qui ont désormais été recrutés. Là aussi, on savait que c'était notre grand défi du mois de janvier, à l'avance, hein, puisque lorsqu'on a vu venir le variant Omicron, on savait qu'il fallait muscler notre capacité de remplacement. C'est ce qu'on a fait. Et là encore, c'est ce qui nous permet de traverser le mois de janvier. Alors, on trouvera toujours des cas où on n'y arrive pas parfaitement. C'est le cas avec le témoignage que vous venez d'avoir. Mais dans l'ensemble, et je pense que ceux qui nous écoutent le savent, il y a beaucoup de remplacements qui est quand même réalisé. Et je pense que là aussi, l'amélioration de la situation sanitaire dans quelques temps va nous permettre de retrouver un niveau normal.
Toujours à relativiser donc selon les régions et les académies. Alors oui. 3000 contractuels annoncés le 13 janvier après la mobilisation dans l'éducation nationale. Il y avait aussi eu cette annonce, hein, 5 millions de masques FFP2. Et pour l'instant, Vanessa, également directrice d'école en Seine-Saint-Denis, n'en a pas encore vu la couleur.
On a eu des annonces pour des masques FFP2, on les attend encore. Là, on a vu des annonces pour des autotests, donc on attend les documents pour pouvoir aller les chercher effectivement en pharmacie. Donc nous commençons à être très inquiets, c'est compliqué au quotidien.
Compliqué au quotidien, la distribution des masques, elle est lancée pour les écoles et les personnels enseignants?
Vous avez 90% des masques FFP2 qui sont arrivés. On s'est beaucoup concentré sur l'école primaire. Alors, il peut y avoir encore quelques exceptions. S'agissant des tests, des autotests qui sont distribués pour les personnels, on compte désormais sur le réseau des pharmacies. Donc, nous donnons à chacun des personnels de l'éducation nationale une attestation professionnelle, chaque fois qu'ils le demandent, qui leur permet de retirer 10 autotests en pharmacie. Donc là encore, hein, qu'il y ait parfois un délai d'attente dans tel ou tel endroit, cela peut arriver. Et on voit que vous avez trouvé ces exceptions, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est 90% des masques FFP2 qui sont arrivés. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur l'école primaire, parce que souvent, notre priorité, c'est des professeurs qui sont en face d'élèves sans masque, par exemple, comme à l'école maternelle ou devant des élèves en situation de handicap. Et puis nous avons aussi les masques dits chirurgicaux, qui étaient aussi une réclamation importante. Là, ils sont au nombre de 70 millions et ils sont arrivés pour l'essentiel là, et dans les écoles primaires et dans l'enseignement secondaire.
Une question plus politique, Jean-Michel Blanquer. On est à environ 70 jours du premier tour de la présidentielle. On a beaucoup parlé aujourd'hui du possible ralliement de Marion Maréchal Le Pen à Éric Zemmour. La campagne s'accélère. Ça dit quoi de l'ambiance actuelle de cette campagne?
D'abord que nous sommes une grande et belle démocratie, il faut toujours le rappeler. C'est dans le monde tel qu'il est une chance que nous devons sans arrêt renforcer. Et quand on voit la densité du débat, le nombre d'événements qui se passent tous les jours sur le sujet, on doit d'abord se réjouir d'être une belle et grande démocratie qui prépare une élection présidentielle. Après, il y a dans notre pays des forces qui parfois sont très radicales. Et ça, c'est un élément quand même d'inquiétude. Et vous venez de l'illustrer, c'est vrai à l'extrême droite, c'est vrai à l'extrême gauche. Et évidemment, la démocratie se renforce davantage quand il y a moins de radicalité dans le débat public et plus de nuances, plus de capacité à débattre, plus de capacité à comprendre les arguments de l'adversaire. Pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire quand je participe au débat politique.
Et la campagne du président, pas encore candidat, vous en serez, vous craignez de payer, entre guillemets, vos vacances à Ibiza, que vous continuez un peu de traîner, hein. On a vu ce sosie encore hier dans les rues de Paris en train de danser avec des manifestantes en bikini. Vous pensez que cette affaire, c'est un peu le sparadrap dont le gouvernement n'arrivera pas à se débarrasser ?
Non, je pense pas du tout. Je pense que a posteriori, à froid, les gens voient bien qu'il ne s'est rien passé de particulier, puisque j'ai simplement pris 4 jours de vacances. Ça aurait pu être dans n'importe quel autre. Ça aurait pu être en Corse ou à Belle-Île-en-Mer de la même façon. Et en plus, j'ai travaillé. Donc, si vous voulez, je pense que si on est dans le débat public à se focaliser sur le fait qu'on s'est absenté 4 jours de Paris, je pense qu'il y a quelque chose qui est évidemment apparaît absurde. Et je pense que la plupart des Français le voient bien. Alors après que. Dans le débat public, certains cherchent à jouer avec ça. Ça fait partie du jeu, si j'ose dire, mais ça ne doit pas...
Et ça ne change rien dans votre rôle une éventuelle campagne ?
Non, vous savez, la meilleure manière d'être utile au président de la République, c'est d'abord de bien travailler à nos sujets. C'est ce que je fais en étant très concentré là sur la préparation des examens, justement, et du baccalauréat, sur toute une série de sujets. On a parlé des mathématiques tout à l'heure, sur mes grandes priorités qui demeurent et qui sont là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les élèves, c'est comment on les fait progresser. Donc, lire, écrire, compter, respecter autrui, tout ça, ça reste mon marqueur et les choses que j'ai à faire et que je continue à faire au quotidien. Et par ailleurs, évidemment, je souhaite la victoire de notre camp. Et donc, j'ai participé à ma place à cet endroit-là. Mais ce qu'il faut, c'est être utile, que ce soit être utile au pays, à nos enfants, et puis être utile, évidemment, à celui qui porte les couleurs dont on estime que, justement, il les portera au mieux pour le pays.
Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, d'avoir été avec nous en studio ce soir dans RTL Soir. Bonne soirée à vous.
Merci à vous.
Et dans un instant, on va refaire nos régions dans cet RTL Soir. On vous présentera, tiens, justement, une prof de maths, également copilote de rallye le week-end. On dégustera des bugnes à Lyon. On ira à Sète pour des travaux polémiques et notre expatrié du jour nous attend en Éthiopie. À tout de suite.
RTL Soir avec Marion Calais.